Israël est un régime d'apartheid, a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Téhéran a condamné l'explosion dans une mosquée de Kaboul, capitale afghane. Et les forces israéliennes ont tué un autre jeune palestinien lors d'une incursion près de Naplouse. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a vivement critiqué les gouvernements occidentaux pour avoir nié les réalités qui prouvent qu'Israël est un régime d'apartheid. Nasser Kanani a déclaré que des documents internationaux officiels et des rapports d'organisations de défense des droits de l'homme prouvent qu'Israël est un régime d'apartheid. Il a ajouté qu'Israël avait commis un génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Kanani a exhorté les États occidentaux à défendre les droits de l'homme des Palestiniens au lieu de nier les réalités existantes sur les crimes d'Israël. Ces remarques sont intervenues après que l'Allemagne et Israël ont critiqué les remarques du président palestinien Mahmoud Abbas sur les crimes du régime d'occupation contre les Palestiniens. Lors d'une récente visite en Allemagne, Mahmoud Abbas a accusé Israël d'avoir commis un holocauste contre le peuple palestinien. Berlin a qualifié les remarques d'Abbas de scandaleuses et le premier ministre israélien les décrit comme un mensonge monstrueux. L'Iran condamne l'attentat à la bombe de mercredi contre une mosquée à Kaboul, la capitale d'Afghanistan. Le ministère iranien des Affaires étrangères, dans un communiqué, a exprimé sa sympathie aux familles des victimes. Une violente explosion s'est produite mercredi dans une mosquée de la capitale afghane Kaboul, a indiqué la police locale. Le porte-parole du département de la police de Kaboul a indiqué que l'explosion s'est produite à la mosquée Abu Bakr al-Siddiq pendant la prière du soir. L'explosion aurait fait des morts et des blessés, mais la police des talibans n'a pas fait de déclaration officielle sur le nombre des victimes. L'un des plus grands centres de soins de Kaboul a annoncé sur Twitter que 27 patients, dont 5 enfants, y avaient été admis, tandis que la chaîne Al Jazeera a affirmé qu'une vingtaine de personnes auraient perdu la vie. Aucune revendication n'a encore été faite quant à la responsabilité de l'attaque. Zabihullah Mujahed, porte-parole du gouvernement des talibans, a condamné l'explosion, mais n'a pas fourni d'informations sur les victimes. Mujahed a déclaré que les auteurs de l'attentat seraient identifiés dans les plus brefs délais. Les forces israéliennes ont tué un autre jeune Palestinien. Cela s'est produit lors d'une attaque des forces du régime sioniste à la périphérie de la ville de Naplouse, en Cisjordanie occupée. Wassim Nasr Abu Khalifa, 18 ans, a succombé aux blessures qu'il a subies après avoir été touché par des tirs israéliens au tombeau du prophète Joseph, à l'est de Naplouse. Cela s'est produit après que des combattants de la résistance palestinienne ont échangé des tirs avec les forces israéliennes lors d'une incursion sur le lieu saint. Au moins 70 Palestiniens ont été blessés dans les affrontements qui ont suivi. Les tensions sont montées dans les territoires occupés après que le régime israélien a perpétré un nouveau massacre dans la bande de Gaza le 5 août, tuant près de 50 Palestiniens, dont Taysir al-Jabari, un haut commandant du mouvement de résistance du djihad islamique de la Palestine. Les tensions sino-américaines se poursuivent. Un haut responsable américain a déclaré que Washington naviguerait partout où le droit international l'autorise, réaffirmant les transits par le détroit de Taïwan. Le secrétaire américain à la défense, Ashton Carter, a prévenu mardi son homologue chinois que l'armée américaine poursuivrait ses déplacements en mer de Chine méridionale partout où l'y autorise le droit international, quelques jours après le passage d'un destroyer américain près d'îlots dont Pékin revendique la souveraineté. Carter a réaffirmé que les États-Unis continueraient à voler, naviguer ou opérer partout où le droit international le permet. Et il a clairement fait savoir que la mer de Chine méridionale ne faisait pas exception à cela, a déclaré ce responsable après des entretiens à Kuala Lumpur. De son côté, le ministre chinois de la Défense a réaffirmé la position de Pékin pour qui les îlots disputés sont sous souveraineté chinoise et a exprimé à nouveau le mécontentement chinois face à l'envoi du destroyer américain dans la zone. L'appel lancé par Washington, exhortant Pékin à arrêter la militarisation de la mer de Chine méridionale tout en envoyant un navire de guerre dans la zone, était une tentative de priver la Chine de son droit à la légitime défense en tant qu'État souverain, a déclaré mardi la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Le Mali a saisi le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies pour avoir cessé ce qu'il présente comme des actes d'agression de la France. Bamako dénonce notamment des violations de la souveraineté ainsi qu'un présumé soutien français à des groupes terroristes. Le ministère malien des Affaires étrangères a diffusé ce 17 août auprès de journalistes une lettre adressée par le chef de la diplomatie à la présidence en exercice chinoise du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Le ministre malien y accuse la France non seulement de violation de sa souveraineté et d'actes d'espionnage, mais aussi d'un présumé soutien de Paris à des groupes terroristes radicaux. Le Mali se réserve le droit de faire usage de la légitime défense conformément à la Charte des Nations Unies dans le cas où persisteraient les agissements français supposés ici dénoncés, affirme le ministre dans une lettre datée du 15 août qui marque le départ du Mali des derniers soldats français après 9 ans de présence militaire sur place. Et enfin, un tribunal saoudien a condamné une femme à 34 ans de prison pour ses activités sur Twitter, marquant la plus longue peine de prison jamais infligée à une activiste des droits des femmes. Doctorante en médecine dentaire à l'université de Leeds en Angleterre, Salma Al-Shehab avait été arrêtée en janvier 2021 alors qu'elle était en vacances en Arabie Saoudite. En juin 2022, un tribunal l'avait condamnée en première instance à 6 ans de prison, dont 3 ans avec sursis, une peine considérablement alourdie il y a quelques jours. Le jugement en appel peut être contesté dans les 30 jours devant la Cour suprême. Le royaume est régulièrement épinglé par les organisations non gouvernementales pour de graves violations des droits humains, notamment sa répression contre les dissidents politiques et les militantes féministes. Selon Moscou, le résultat final des pourparlers de Vienne concernant la relance de l'accord nucléaire de 2015 entre les grandes puissances et la République islamique d'Iran dépend de la réaction américaine aux propositions de la République islamique d'Iran. Le négociateur principal russe, Mikhail Ulyanov, exprime son opinion quant aux progrès récemment réalisés lors des pourparlers de Vienne sur un éventuelle restauration de l'accord de 2015 sur le nucléaire civil iranien, affirmant que le résultat final dépendra de la réaction des États-Unis aux dernières propositions de la République islamique d'Iran visant à faciliter la conclusion du processus diplomatique. Mikhail Ulyanov, qui est également ambassadeur de Russie auprès des organisations internationales dans la capitale autrichienne Vienne, a fait cette remarque dans un post sur son compte Twitter mercredi, en réaction à un rapport du journal New York Times basé aux États-Unis, un jour plus tôt selon lequel des responsables européens étaient de plus en plus optimistes quant aux perspectives d'une relance de l'accord de 2015. Il y a eu des raisons d'être optimiste auparavant, mais à d'autres occasions, les attentes n'ont pas été satisfaites, a-t-il déclaré. Cette fois, plus que jamais, nous avons une grande chance de franchir la ligne d'arrivée des pourparlers de Vienne. Le diplomate russe a ajouté : le résultat final dépend de la façon dont les États-Unis réagissent aux dernières suggestions raisonnables de la République islamique d'Iran. Mikhail Ulyanov a en outre déclaré que la raison pour laquelle un tel accord semblait plus probable que jamais était que les dernières et les plus récentes propositions de la République islamique d'Iran ne sont pas controversées. Je n'ai aucune raison de croire qu'ils peuvent être inacceptables pour les États-Unis, a-t-il ajouté. Mais attendons et croisons les doigts, a-t-il estimé. Sur sa page Twitter, Ulyanov a écrit « Il y a eu des raisons d'être optimiste auparavant, mais à d'autres occasions, les attentes n'ont pas été satisfaites. Cette fois-ci, plus que jamais, nous avons une grande chance de franchir la ligne d'arrivée des négociations de Vienne. » Plus tard, lundi, la République islamique d'Iran a annoncé qu'il avait fourni au coordinateur de l'Union européenne dans les pourparlers du plan global d'action conjoint sa conclusion finale concernant les propositions du bloc pour la relance de l'accord, soulignant que c'était maintenant au tour des États-Unis de faire preuve de réalisme et de flexibilité s'ils voulaient vraiment un accord final à trouver. L'Union européenne a confirmé qu'elle avait reçu la réponse de la République islamique d'Iran, affirmant que le bloc étudiait la réponse avec les parties à l'accord et avec les États-Unis. Selon le rapport du New York Times de mardi, les responsables ont qualifié la réponse de la République islamique d'Iran d'encourageante, affirmant qu'elle ne soulève pas de nouvelles objections majeures. Séparément mercredi, le porte-parole du département d'État américain Ned Price a confirmé que les États-Unis avaient reçu les commentaires de la République islamique d'Iran via l'Union européenne. Ned Price a déclaré que l'administration du président Joe Biden étudiait toujours les notes et restait engagée dans les consultations avec l'Union européenne ainsi qu'avec ses alliés européens sur la voie à suivre. Les États-Unis, sous la direction de l'ancien président Donald Trump, ont quitté l'accord de 2015, officiellement appelé le plan global d'action conjoint en 2018, et ont rétabli les sanctions que l'accord avait levées. La République islamique d'Iran et les autres parties de l'accord ont repris des pourparlers intermittents pour une éventuelle revitalisation de l'accord dans la capitale autrichienne Vienne depuis l'année dernière. Des mois après que Joe Biden a succédé à Donald Trump pour examiner le potentiel de la relance de l'accord et de la suppression des sanctions injustes imposées par les États-Unis à la République islamique d'Iran.